Adjéré, Père Philippe, 21 décembre 1983, Saint-Joseph.
Avant de reprendre, je réponds à ces questions. Y a-t-il des vertus de l'intelligence spéculative? Bon, dans l'intelligence spéculative, on appellera des habitus de science, qui ne sont pas dites vertus, parce que le terme vertu est réservé à l'ordre moral. C'est un habitus en vue d'une opération bonne. Un habitus qui est pour découvrir la vérité dans l'ordre spéculatif. Il y a un habitus mathématique, vous n'avez qu'à demander aux mathématiciens. Ils ont des habitus. Et c'est très ancré, l'habitus mathématique. Il y a un habitus philosophique. Alors, y a-t-il des habitus? Un historien? Y a-t-il un habitus pour un historien? Ça, c'est une grave question. On pourrait ouvrir ça, une grande question disputée là-dessus. Ou est-ce que c'est des dispositions? Y a-t-il un habitus pour le physicien? Ou est-ce que c'est l'habitus mathématique qui s'étend à la physique et qui s'étend à la biologie? Y a-t-il un habitus biologique? De la science biologique. C'est très très délicat toutes ces questions-là. Mais font c'est des habitus qui viennent perfectionner l'intellect spéculatif dans l'ordre de la recherche de la vérité. Tandis qu'au contraire, la vertu, c'est l'habitus en vue du bien de l'homme, en vue de la béatitude de l'homme. Y a-t-il une différence entre la vertu de prudence et l'habitus de sagesse? Alors, je disais la dernière fois que la vertu de prudence est l'analogue à l'habitus de sagesse dans l'ordre pratique. Ce que les anciens disaient toujours, et ce que saint Thomas a dit aussi que l'habitus de prudence, c'est comme la sagesse dans l'ordre pratique. C'est comme la sagesse. C'est-à-dire, c'est de fait, une petite sagesse, parce que elle a un dominium sur une quantité de parties, et elle ramène tout à l'unité. Alors, la différence de la sagesse, c'est que la sagesse est un habitus contemplatif, la prudence n'est pas un habitus contemplatif. La prudence est un habitus qui nous permet de nous engager d'une façon droite dans notre vie pratique. Ce que nous avons essayé de voir la dernière fois, hein, je vais revenir là-dessus parce que c'est très très important. Alors, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est la fameuse définition que saint Thomas donne de l'habitus de sagesse. Habitus contemplativus. Saint Thomas donne ça dans les noms divins. Je ne sais pas s'il le dit dans la somme, il faudrait voir. Mais il le dit sûrement dans les noms divins. Comment s'acquiert la vertu de prudence? Par des actes prudents. Tout simplement. Par des actes corrects et prudents, c'est comme ça. Parce que la vertu de prudence, elle n'est pas dans notre berceau. C'est une vertu acquise. C'est quelque chose qui vient en plus. Parce que, justement, notre intelligence est radicalement tabula rasa. Mais on dira qu'il y a des hommes plus ou moins naturellement prudents. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont eu des grands-pères, des arrière-grands-pères qui étaient des saints. Tandis que si vous avez eu des pères et des grands-pères et des arrière-grands-pères qui étaient anarchiques, il y a des chances que leur petit-fils soit moins prudent. Ou quelquefois, par réaction violente à l'égard du père anarchique, on verra des fils terriblement prudents. Mais alors, c'est acquis, hein. C'est pas du tout en fonction des dispositions. Est-ce que toujours par des ou aussi par des expériences négatives. Est-ce par des... Pardon, je ne vois pas. Ça n'a pas d'importance. Oui, donc c'est toujours là que savoir comment la vertu de prudence s'acquiert. Alors, elle s'acquiert par des actes positifs, toujours. Ça s'acquiert par des actes prudentiels qui ne sont pas au même niveau que la prudence, qui sont de l'ordre de la disposition. C'est des actes qui sont source de la prudence. Et la prudence vient du dedans déterminer notre intelligence pratique. Alors, autre question. La dernière fois, nous avons vu la nécessité d'opposer la prudence au niveau de l'imperium, du choix et même de l'intention. Or, saint Thomas ne pose la prudence que pour le choix et l'imperium. Oui, c'est ce que nous avions dit. Qui concerne les moyens et non pas l'intention. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ? Nous ne l'avons pas répondu. Réponse. Ah, si vous donnez la réponse, tant mieux. Réponse. Si saint Thomas définit l'intention tendre vers quelque chose, or, en théologie, le moteur de ce mouvement n'est-il pas la foi qui, comme nouveau jugement, nous fait tout de suite adhérer à notre fin, Dieu. Par contre, en philosophie, cette fin ne s'impose jamais d'une manière absolue, même si la volonté est déterminée fondamentalement vers le bien spirituel. C'est très bien, il a bien défini, c'est bien, j'allais le dire, je le reprendrai tout à l'heure, mais c'est juste, c'est bien. C'est très bien de devancer, hein, je ne vous interdis pas du tout, au contraire, c'est très bien. J'avais posé la question, pourquoi en philosophie, on doit voir que la vertu de prudence regarde l'intention, le choix et le point de vue de l'impérium. Donc, trois moments très importants. Alors, avant de revenir à saint Thomas, pour que vous oubliez la réponse et que je puisse vous la donner, n'est-ce pas ? Je vais voir la vertu prudence au niveau de l'amour d'amitié. N'oublions pas que notre effort au point de vue philosophie éthique, c'est de toujours partir de l'amour d'amitié. J'y tiens beaucoup, ça, parce que face à la philosophie de Nietzsche, je crois que c'est la seule réponse. Nietzsche supprime et rejette Kant avec violence. Et les arguments qu'il donne sont assez forts. Alors, Nietzsche nous libère de Kant. Et c'est une libération. N'est-ce pas ? C'est une libération. Il faut les laisser s'entretuer. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre Nietzsche. On ne peut pas faire une morale à la Nietzsche, puisque la morale nietzschéenne reposerait sur la créativité. Donc la morale nietzschéenne reposerait sur le fat chéré dans la créativité. Alors vous voyez, tout de suite, si vous n'avez pas d'inspiration, vous ne pouvez pas être moral. Il faudrait être un artiste pour être un être moral. Que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe habituellement. Je crois qu'habituellement, on découvre d'abord la nécessité dans notre vie courante, la nécessité de liens humains dans l'ordre de l'amour, le lien de l'enfant avec sa mère, le lien avec les petits camarades. Alors il y a bien le jeu, je sais très bien, mais il y a tout ça, le point de vue religieux, tout ça fonde profondément le point de vue moral. Le point de vue moral ne peut pas être fondé sur la créativité. Non seulement génétiquement, ça ne me semble pas vrai, et deuxièmement, philosophiquement, ça ne me semble pas vrai. Pourquoi ? Parce que la créativité conduit à une œuvre. Une œuvre n'est pas une fin proprement personnelle. Je ne peux pas fonder toute ma vie morale sur ma capacité de réaliser une œuvre. Parce que la morale, c'est découvrir une finalité personnelle qui me donne le bonheur. Réaliser une œuvre ne me donne pas le bonheur. C'est bien dommage, c'est comme ça. S'il suffisait d'écrire un bouquin génial pour être heureux, ce serait facile d'être heureux. Mais non. S'il suffisait de réaliser une icône pour être contemplatif, ce serait merveilleux. Mais ça peut aider, hein. C'est un tremplin. C'est un tremplin qui conduit vers. Mais la réalisation, la créativité d'une œuvre n'est pas ce qui fonde le point de vue moral. Ça aide, ça dispose, ça facilite, mais ce n'est pas le fondement. Le fondement de toute la morale me semble être, qui n'est pas en réalité pas un fondement, c'est la découverte de la finalité. On reviendra en politique là-dessus, pour savoir si de fait, cette finalité n'est pas nécessaire à toute philosophie pratique. À ce point de vue-là, ce serait très intéressant d'établir ça. Autrement dit, le lien entre les trois parties de la philosophie pratique, philosophie du facere, philosophie de l'agir, philosophie politique, serait beaucoup plus uni que les trois parties de la philosophie spéculative. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Et c'est le point de vue de la finalité, la découverte de la finalité. Vous découvrez la finalité dans un amour d'amitié. Parce que vous découvrez la finalité dans un amour d'amitié, où vous découvrez la personne humaine comme étant votre ami, vous la choisissez comme ami, et vous découvrez à ce moment-là ce lien qui est capable de vous donner un certain bonheur. Pas le bonheur absolu, mais un certain bonheur. Et vous découvrez vraiment une finalité, c'est-à-dire un dépassement. Parce que c'est ça la finalité. C'est découvrir un dépassement. Tandis que quand vous réalisez une œuvre, vous ne découvrez pas un dépassement. Vous découvrez quelque chose qui peut être votre gloire, mais qui n'est pas votre gloire. Ça peut être votre gloire. C'est vrai, si vous cherchez votre gloire, mais la gloire ne donne pas le bonheur. Et la gloire n'est pas un dépassement. C'est vrai, si vous réalisez une œuvre merveilleuse, quelque chose d'étonnant, dans 2000 ans, on en parlera encore. Et c'est pour ça qu'on écrira derrière l'icône, hein. Cette icône est faite à Rimoud, et dans 2000 ans, on dira, c'est merveilleux, vous voyez, c'est extraordinaire, ça. Et c'est la gloire, ça. Mais c'est, ça ne donne pas le bonheur. La gloire ne donne pas le bonheur. C'est quelque chose de partiel. C'est quelque chose qui reste limité. Donc, l'amour d'amitié finalise et donne le dépassement de la personne. La personne humaine arrive à ce dépassement grâce à l'ami. Je me dépasse dans l'ami. Puisque l'ami passe avant moi. Je l'aime plus que moi. Sens très fort. Si je l'aime relativement à moi, ce n'est pas un ami. Si je l'aime pour moi, ce n'est pas un ami. Tandis qu'au contraire, quand je l'aime pour lui-même, il y a un dépassement. C'est pour ça que l'amour d'amitié est si rare. Parce qu'on aime souvent pour soi. Et tant qu'on aime pour soi, ce n'est pas encore l'amour d'amitié. Parce que ce n'est pas la bienveillance. On aime l'autre pour lui. Et donc ça exige ce dépassement pour rejoindre l'ami. Alors, dans l'amour d'amitié, justement, il y a ce dépassement, cette finalité. J'avais dit qu'il fallait comprendre que toute la philosophie morale se fonde sur l'amour d'amitié. Donc c'est très important d'essayer de comprendre le point de vue de la prudence au niveau de la prédiction. Pour pouvoir réaliser un amour d'amitié qui soit vraiment parfait, la prudence est nécessaire. Et ça, c'est très très important de comprendre que les vertus permettent d'aimer plus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. C'est la seule manière de réhabiliter la signification des vertus. Soyez vertueux pour aimer plus. Parce que si vous dites soyez vertueux pour être parfait, non, je ne cherche pas à être parfait. C'est pas ça, c'est pas ça qu'on cherche. Soyez vertueux pour aimer plus. Et c'est la vraie finalité des vertus. Les vertus proviennent d'actes humains en vue d'amour. Et donc les vertus naissent dans un acte humain finalisé. Et les vertus sont pour que cet acte humain finalisé soit plus humain, donc plus finalisé. Et donc toutes les vertus, c'est pour permettre d'aimer plus. Et comme nous avons vu que la prudence permet toutes les autres vertus, ce que nous allons voir ensuite, mais je l'ai montré rapidement et nous allons revenir dessus, il est intéressant de voir comment la prudence va me permettre d'aimer davantage l'ami. Et donc mon véritable ami, ce sera un ami prudent. Et si je veux être un véritable ami pour mon ami, c'est d'être un homme prudent. C'est très beau ça. Parce qu'alors là, on oppose, on unit ce que si facilement on oppose amour et prudence. Et on oppose amour et prudence parce qu'on comprend mal l'amour et qu'on comprend mal la prudence. Alors qu'il y a au contraire une exigence entre les deux. La prudence, c'est le reflet de l'amour dans le cœur de l'homme, ou plus exactement, dans l'intelligence pratique de l'homme. Puisque l'amour est dans le cœur et le reflet de l'amitié dans l'intelligence va être la prudence. Alors là, oui, vous rejoignez comment la prudence peut être une sagesse. C'est une autre manière de le regarder. Et ce serait une très belle manière de regarder le lien de la prudence et de la sagesse par le point de vue de l'amour d'amitié. Comment la prudence va me permettre d'aller plus loin dans l'ordre de l'amour d'amitié. Alors, essayons de comprendre cela. Nous avons déjà vu toute l'analyse de l'amour d'amitié. Nous l'avons vu très rapidement au début de l'année, nous l'avons vu très longuement l'année dernière, donc je reviens très rapidement, doublement rapidement. Alors, je crois que cette prudence dans l'ordre de l'amour d'amitié va jouer au niveau du choix de l'ami. Or, le choix de l'ami présuppose l'intention, présuppose l'amour. Mais c'est toujours au niveau du choix que se noue l'amour d'amitié. L'amour et l'intention de vie ne peuvent être parfaitement vécus qu'au niveau du choix. Ça, nous en avons tous expérience. Hein. Tant que nous n'avons pas choisi, ce n'est pas encore l'amour d'amitié. L'amour d'amitié implique un choix. Mais un choix qui porte non plus sur un moyen, mais sur l'ami. Or, l'ami, c'est ma fin. Or, l'ami, c'est mon bien. Et je le choisis. Et c'est ça qui est si extraordinaire, justement, dans le choix de l'amour d'amitié, c'est que dans le choix de l'amour d'amitié, je choisis un ami, c'est vrai, cet ami, c'est une personne, puisque c'est une personne, il peut être fin, il peut être mon bien, il n'est pas un moyen, Je ne choisis jamais un ami pour être un moyen. Moi, je te choisis pour pouvoir réaliser mieux cette chose-là. Ou je te choisis pour pouvoir aimer mieux quelqu'un d'autre. Mais ben, ça peut arriver. Je vois que tu es l'ami d'un tel, c'est l'autre que j'aime, mais je te choisis pour être plus proche de lui. Alors vous voyez, ça, c'est, ça ne va pas du tout. Alors on choisit un conseiller, on choisit un aide, on choisit un serviteur. Ben, tu gravites autour de cette personne, c'est cette personne que je veux aimer, par moi-même je suis incapable de pouvoir graviter autour, je te choisis pour graviter autour. C'est comme ça que vous pouvez choisir certains saints comme amis, parce qu'ils sont des saints proches de la Sainte Vierge, proches de Jésus, alors on s'en sert, hein. Vous prierez pour moi, mais alors en réalité ce n'est pas des amis à ce moment-là, vous choisissez des serviteurs, venez-vous. Ce n'est pas vraiment des amis. Un ami, on choisit pour lui-même. C'est le propre de l'amour d'amitié. On choisit pour lui-même. Et c'est dans un sens que je choisis telle personne. Vous ne choisissez pas pour vous aider. Tu es fort en thème, moi je suis nul, alors on va s'aider. On va vous dire, non, c'est très important. Mais ça, c'est l'ordre de l'amitié d'efficacité. C'est l'ami utile. Et l'ami utile n'est pas un véritable ami. L'ami utile, c'est de l'ordre de l'efficacité. Ce n'est pas de véritable ami. Donc, le choix amical porte vraiment sur un absolu. Et non pas un moyen. Alors, c'est là où je dis que ce choix est d'une nature toute différente que les autres choix. Et ce choix prudentiel, il peut aussi être littéral. C'est vrai. Donc vous retrouvez condensé dans le choix et dans l'impériou au niveau prudence tout ce que vous voyez habituellement dans le développement de l'être humain. Et la prudence au service de l'amour d'amitié, donc la prudence dans ce qu'elle a de plus grand, la prudence dans ce qu'elle a de plus noble. On n'est jamais aussi prudent que dans le choix d'un ami. C'est là où la prudence est parfaitement prudence. Parce qu'elle me permet d'atteindre ma fin. La prudence n'a pas d'autre but que de permettre d'atteindre ma fin. Alors, à la place de me choisir un moyen lointain, je choisis ce qui va me permettre d'atteindre immédiatement ma finalité, mon bonheur, par le choix de l'ami. Évidemment, cette finalité ne sera pas dernière, il y aura un rebondissement vers quelque chose de plus profond. Après, ça c'est une autre question. Vous voyez ? C'est de savoir si cette finalité est ultime. Cette finalité n'est pas ultime, nous le savons, mais cette finalité demeure quand même une vraie finalité. Quand je choisis un ami, je le choisis comme un bien absolu. Je le choisis comme un ami. C'est toute la question du choix amical. Je le choisis vraiment comme un ami. Et donc, je le choisis comme une personne. Et je ne peux pas utiliser une personne. Si j'utilise une personne, ce n'est plus le choix vraiment d'un amour d'amitié. C'est utiliser quelqu'un. On n'aurait même pas le droit, du point de vue purement humain. Ça se fait souvent, mais c'est pas ça. Mais dès qu'on l'utilise, alors, on le considère justement comme un instrument. C'est plus le choix d'une personne, au sens rigoureux. Ce serait la question de l'esclave, je le disais tout à l'heure. On utilise, et comme c'est un instrument, mais on l'utilise de telle manière qu'on l'utilise en respectant sa personne. Vous voyez, c'est au fond cette question-là qu'on touchait tout à l'heure, au point de vue du séminaire. Voyons que ce choix prudentiel va jouer pour choisir le point de vue de l'ami au niveau du choix. Ce choix prudentiel va atteindre l'intention pour permettre à cet amour premier d'être l'intention de vie. Alors, je peux dire que la prudence va jouer pour faire que l'amour premier soit vécu comme une intention de vie et que cette intention de vie devienne un choix. Voilà ce que fait la prudence. Ça, le propre de la prudence au niveau de l'amour d'amitié. Je reprends pour que vous voyez bien. La prudence va faire que cet amour, nous l'avions déjà vu, cet amour premier, il est naturel, il n'est pas libre. Mais je suis conscient de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Eh bien, la prudence va jouer pour que cet amour soit pleinement accepté comme une intention. Je dois être lucide. Et la prudence va jouer là-dessus. Parce qu'on peut très bien se tromper. Quand je suis au niveau de cet amour, hein, c'est naturel, ça peut me tromper. Je peux me tromper. Je peux très bien. Ça arrive, il y a des gens qui choisissent des amis, qui aiment un bien et qui disent cette intention de vie, qui s'aperçoivent que non, ils se sont complètement trompés. Ce bien ne peut pas être pour moi une fin. Et donc, il y a là une lucidité à avoir. Cette lucidité provient d'intelligence pratique. Donc elle provient de la prudence. La prudence va jusque-là. Elle fait le passage entre l'amour à l'égard de telle personne, puisqu'il s'agit de l'amour, à l'égard de telle personne. Et cet amour, encore une fois, il est naturel. Il n'est pas libre. Il s'impose à moi. Mais je suis libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Je peux me tromper. Est-ce que je l'accepte ou je n'accepte pas à cause de quoi? En voyant si, justement, cette personne peut être une fin, peut déterminer une intention de vie. Il faut beaucoup de lucidité, là. Il ne faut pas que cet amour soit un amour purement imaginaire. Il faut que ce soit un amour qui porte sur un véritable bien. Et là, le point de vue de la prudence va intensifier l'intelligence pratique pour pouvoir comprendre que cette personne est mon bien. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être une femme. Et ça, je crois, ça fait comprendre comment si souvent cette intention de vie est mal réalisé parce qu'il n'y a pas assez de lucidité. Quand il n'y a pas assez de lucidité, on se casse la tête. J'avais cru que cette personne était merveilleuse, extraordinaire. Puis non, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompe complètement. C'est pas ça du tout. On s'est aperçu ça pendant un certain temps. On aurait mieux fait de s'apercevoir tout de suite. On aurait mieux fait d'avoir un peu plus de perspicacité. Vous voyez, avoir un peu plus de prudence. Joue à ce niveau-là. Tout de suite, dès qu'il y a liberté, la prudence intervient. Tout de suite, dès qu'il y a liberté, la prudence intervient. La prudence permet à un amour de pouvoir se porter sur un bien, sur telle personne, et pouvoir comprendre que cette personne est vraiment capable d'être une fin pour moi. Donc de faire que cet amour devienne une intention de vie. Ensuite, la prudence, ça va de soi, va jouer ce rôle de faire que cette intention de vie devienne implique un choix. Pourquoi? Alors c'est là où c'est intéressant aussi de voir que c'est la prudence, sous un mode tout à fait différent, va faire comprendre que la personne que je considère comme capable de finaliser ma vie demande d'être choisi, et choisi librement. Pourquoi ? Parce que cette fin, elle est mon bien, elle est mon ami. Et donc, il faut que je la choisisse comme étant ce qui devient pour moi ce qui détermine toute ma vie, ce qui devient vraiment la fin, et non seulement la fin lointaine, mais la fin immédiate. La seule fin immédiate, en dehors de l'ordre surnaturel, en dehors de la vie chrétienne, mais la seule fin immédiate au point de vue humain, c'est la personne humaine. Et ça, c'est le choix prudentiel qui me donne la signification profonde. Et c'est là où la prudence intervient. Est-ce que cette personne que je choisis, que qui est ma famille, peut-elle être pour moi cette fin immédiate, c'est-à-dire mon ami, que je choisis? Quelle différence, vous allez le comprendre, quelle différence a-t-il entre le moyen et la fin au niveau habituel, au niveau de la vie humaine? C'est que le moyen est immédiat et la fin est lointaine. On est beaucoup plus proche des moyens que de la fin, habituellement. Et c'est pour ça que vis-à-vis des moyens, vous avez une proximité immédiate, et le choix exprime justement que vous choisissez ce moyen parce que ce moyen vous est donné immédiatement, tandis que la fin vous tendez vers la fin. Vous n'allez pas dire vous tendez vers le moyen. Non, le moyen vous est donné tout de suite. Le moyen, c'est immédiat. Et la fin est lointaine. Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de l'amour d'amitié? C'est que la fin devient immédiate. Et c'est ça qui est prodigieux dans l'amour d'amitié. C'est que la fin devient immédiate. Donc, la fin, c'est mon ami qui est choisi comme ce qui est direct, immédiat. Et pour pouvoir faire ce choix, il faut que la prudence me fasse comprendre comment cette personne qui est ma fin devient immédiatement mon bien. J'insiste, mon bien. Il est le bien capable de finaliser, il devient mon bien. Comme un moyen est mon bien. Non pas parce que je le possède, c'est pas ça du tout. Je le possède en le choisissant. Mais comme ce choix est un choix affectif, c'est pas du tout une possession. Mais on voit aussi comment il peut y avoir la caricature. Un moyen, on le possède en vue de l'acquisition de la fin. Puisque je choisis mon ami, je lui donne moi-même cette qualité particulière d'être mon ami. Si je n'avais pas choisi, il ne serait pas mon ami. Il ne serait pas mon ami. Et donc, d'une certaine manière, en le choisissant, je lui donne une qualité humaine. C'est mon bien. Et parce que je lui donne cette qualité, je risque toujours de lui faire comprendre que c'est grâce à moi qu'il est mon bien. Que c'est grâce à moi qu'il est mon ami. Et donc un petit droit de propriété. Ce petit droit de propriété, c'est tout simplement parce que la prudence n'est peut-être pas là. Parce que je crois que la prudence est au service de l'amour, dans le choix de vie, pour m'empêcher d'avoir un droit de propriété sur mon ami et de le considérer comme mon bien qui m'attire. Si tant d'amitié avorte, si tant d'amitié disparaît, d'où ça vient? C'est intéressant à se demander ça, parce que c'est là où on voit le problème de la prudence. La prudence doit être gardienne de l'amour d'amitié. Vraie prudence, qui qui me donne une lucidité, qui me donne donc une limpidité dans mon amour. Alors que la passion fait que l'amour d'amitié perd sa limpidité. Et perdant sa limpidité, va détruire le caractère spirituel de l'amour d'amitié. Puisque l'amour d'amitié porte sur une personne. Une personne, je ne peux pas la posséder. Si je la possède, elle n'est plus ma fin, elle n'est plus le bien. Alors c'est mon bien qui tue le bien. C'est l'appartenance, mon, qui tue le bien. Quand vous dites, ah, tu es mon bien, c'est comme ce chocolat que j'aime de manger. Alors je dis, ça c'est merveilleux. Mais oui, vous mangez le chocolat, mais il disparaît. Alors c'est la même chose. Tu es mon bien, je te mange. Tu es mon ami, je te mange, mais en le mangeant, il disparaît, et l'ami disparaît. Il n'y a plus que le bois qui a avalé le chocolat, n'est-ce pas ? Alors on voit très très bien ça. Il y a une lutte entre les deux. C'est bien évident qu'il y a une lutte entre les deux. Il y a la possibilité d'accaparement par rapport au bien. Et alors à ce moment-là, c'est plus bien. Vous voyez comment hein, les passions, la passion de concupiscence, c'est celle-là qui est évidemment la plus forte dans l'amour d'amitié. La passion de concupiscence fait et très souvent en lutte contre l'amour spirituel qui lui est extatique. Un ami, je l'aime au-delà de moi et je l'aime pour lui. Si je ne l'aime pas pour lui, je ne l'aime pas vraiment. Si je l'aime pour moi en premier lieu, ce n'est plus l'amour d'amitié. Et c'est ça qui fait avorter l'amour d'amitié. C'est quand l'ami s'aperçoit qu'en réalité, il est le bien de l'autre. Et que plus l'autre prétend l'aimer, plus il devient relatif. Alors, dans sa dignité de personne, dire non. Il opte pour son autonomie. Il brise à ce moment-là. C'est constamment comme ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que c'est très difficile, hein, c'est très difficile d'un amour d'amitié d'augmenter véritablement. Ce que dit Aristote, c'est pour ça qu'Aristote dit que c'est si rare. Elle le dit. Nous, par la grâce chrétienne, hein, ça peut se faire. Mais il faut reconnaître qu'il faut une lutte constante. Parce qu'il faut lutter constamment contre la concupiscence qui fait qu'on accapare. Et alors, en accaparant, on supprime le bien. Parce que le bien, c'est ce qui me permet de me dépasser. Le bien, c'est l'autre. C'est la personne humaine dans ce qu'elle a d'absolu. Et c'est cette personne humaine dans ce qu'elle a d'absolu que je dois respecter à travers tout. Alors je comprends comment la prudence me donne cette lucidité dans le choix. Un choix amical n'est pas du tout le choix du petit chocolat. Quand je choisis le petit gâteau que j'aime le mieux, je choisis le gâteau que j'aime le mieux. Je choisis le chocolat que j'aime le mieux. Alors je choisis en fonction de moi. Ça, c'est dans l'ordre de la concupiscence. C'est un choix de concupiscence. Ce qu'on me demande de choisir. Alors si vous êtes bien élevé du et vous mouchez sur le chocolat, vous dites, oh non, non, servez-vous d'abord. Vous avez bien soin de bien tourner la table. C'est un petit chocolat, ça se fait admirablement, ça, n'est-ce pas ? Alors, quand il s'agit de l'amour d'amitié, vous ne pouvez pas faire ça. Vous choisissez en accaparant. Et dès que vous accaparez, vous supprimez l'amour d'amitié. Vous le détruisez de vous-même dans le choix. C'est pour ça que la prudence doit être là, au niveau de ce choix, pour respecter l'intention et respecter l'amour. Et faire que ce choix permette à l'amour d'être plus amour, plus spirituel, et donc plus extatique, d'aimer l'autre pour l'autre, et de ne pas être du tout un amour d'accaparement. Alors vous voyez comment la prudence dans le choix amical joue un rôle unique. Elle est aussi, la prudence est au service de cet amour spirituel et permet à cet amour spirituel d'être pleinement lui-même. Permet à cet amour spirituel d'être ce qu'il doit être, c'est-à-dire je me porte sur un bien qui est une personne que je respecte comme personne et que j'aime comme personne, c'est-à-dire comme étant le bien pour moi, mais le bien. Et ce bien, je l'aime pour lui-même en premier lieu. Je l'aime aussi pour moi. Il y a un ordre. Et c'est d'abord l'autre que j'aime, puisque je l'aime comme... Si je l'aimais d'abord pour moi, ce ne serait pas mon bien. Ce ne serait pas le bien, ce serait mon qui l'emporterait, donc l'appartenance. Et c'est là où la prudence, voyez, vient purifier la concupiscence et lier l'imaginaire. Et la concupiscence et liée à l'imaginaire fait que, en choisissant, j'accapare. Et dès que vous accaparez, vous supprimez l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est très très exigeant, puisque ça développe en moi ce qui est de plus noble. Ça développe en moi ce qui est de plus noble, ma plus grande capacité d'aimer au plan spirituel. Si je vais jusqu'au bout de l'amour d'amitié, hein, si je reste uniquement un petit amour, hein, gentil, ça, c'est pas l'amour d'amitié, c'est un petit amour gentil. On est heureux de se retrouver ensemble, c'est très très heureux. On fait la petite dînette ensemble, la dînette philosophique ensemble. En réalité, la dînette philosophique, c'est pour être ensemble. Vous voyez ? Alors, c'est la matière. Ce serait du chocolat, ce serait plus agréable, plus immédiat, mais puisqu'au fond, c'est la dînette philosophique, c'est la dînette philosophique. Mais on est heureux d'être ensemble. Alors, ce n'est pas à ce moment-là. La véritable amour d'amitié, vous voyez, c'est tout simplement d'être heureux d'être ensemble. D'être heureux d'être ensemble, c'est pas encore l'amour d'amitié. C'est l'amour de concupiscence. C'est l'amour de jouissance, comme dit Aristote, qui n'est pas un véritable amour et qui risque toujours de disparaître parce que on n'est pas respecté comme personne humaine, et on est aimé en fonction de la jouissance de l'autre. Il n'y a rien qui purifie plus, hein, le cœur de l'homme que l'amour d'amitié. L'amour d'amitié exige, hein, une purification très grande. C'est pour ça que c'est si difficile, hein. Ça demande des luttes, ça demande une lucidité très grande, et c'est là où la prudence... Là, vous voyez comment ce choix prudentiel a quelque chose de très unique et que ce choix prudentiel par rapport à l'ami implique nécessairement de toucher l'intention et d'impliquer l'amour. Autrement, il n'y a pas de choix d'amitié. Et la prudence est au service de ce choix. La véritable prudence, elle permet à l'amour d'amitié, elle permet à l'amour spirituel de rester toujours la note dominante qui assume l'aspect passionnel, l'aspect imaginatif, en le relativisant à l'amour spirituel. Alors, je crois qu'on peut dire quelque chose d'analogue par rapport à l'acte d'imperium. L'acte d'imperium, c'est quoi ? Dans l'ordre de l'amour d'amitié. C'est très simple, c'est les déclarations de l'amour d'amitié. C'est dire que je t'aime bien, tu sais. Vraiment, je t'aime beaucoup. C'est ça l'impérium. C'est de dire. L'amour d'amitié réclame non seulement le choix, mais il faut le dire. Donc, le dire, c'est se jeter à l'eau. C'est très bien, c'est se jeter. C'est déclarer des choses qu'on ne déclare pas d'habitude. C'est tellement difficile à dire à quelqu'un « je t'aime vraiment », tu sais. Il faut être sûr qu'on l'aime. Qu'on l'aime vraiment, qu'on ne l'aime pas pour soi. Parce que dire « je t'aime comme un petit chocolat, tu es mon petit chocolat, tu es mon dessert, c'est merveilleux », ça ne va pas du tout. « Je t'aime vraiment », c'est-à-dire « je suis capable d'être le meilleur de tes serviteurs ». Je suis capable de mettre toute ma vie à ton service. C'est ça, aimer. Je suis capable, vraiment, tu es pour moi le bien, tu es pour moi la fin. C'est quelque chose de très grand. Alors, si vous passez dans l'ordre surnaturel, vous voyez, ça prend une dimension encore beaucoup plus grande. C'est ça, la charité. Alors, la charité, on la déclare universelle, mais la charité n'est vécue que quand elle est personnelle. Et alors, quand elle est personnelle, elle demande cette déclaration ultérieure. Alors, c'est ultérieure, elle demande tel circonstance, parce que aimer tout le monde, c'est facile comme déclaration. Mais aimer tel que la Providence a mis sur notre route, et dire oui, la Providence m'a mis sur ta route, je sais, je dois t'aider, je dois t'aimer, je dois t'aimer d'un amour spécial, parce que c'est toujours un amour spécial. C'est vrai, c'est toujours un amour spécial, c'est toujours un amour et toujours personnel, toujours spécial. Donc c'est pour ça que Jésus dit, m'aimes-tu plus que tous les autres. C'est impliqué dans l'amour, ça, en tant qu'amour, puisqu'il n'y a pas de comparaison. Jamais ça, vous ne pouvez pas comparer, on ne peut pas dire, je t'aime plus qu'un autre, parce que c'est très, très difficile. La seule manière d'évaluer la qualité différente de l'amour, c'est de savoir les secrets que vous communiquez à l'un et que vous ne communiquez pas à l'autre. C'est un petit signe, c'est un signe, pas plus. Hein. Parce que le véritable amour ne se compare pas. Et donc, on ne l'aime pas parce qu'il est, parce qu'on l'aime, c'est tout. On ne compare pas. Et on ne peut pas comparer. C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est merveilleux. Unique. Et alors, ça, c'est une terrible déclaration. Et alors, ça dépend de la prudence pour savoir le moment opportun. Parce qu'autrement, c'est la précipitation. Et la précipitation dans l'ordre de l'amour d'amitié, ça ne va jamais très bien. Alors, nous reviendrons encore sur la question de saint Thomas la fois prochaine. Hein, parce que c'est important de saisir ça. Je me servirai de la petite note.